Alors, nous voilà de retour maintenant avec Ray Lalonde pour parler sport business. Salut, Ray.
Salut, Jérémy.
Ray, je sais que t'es un gars de chiffres, t'es un gars d'argent, mais apprécies-tu jusqu'à maintenant le spectacle des séries éliminatoires?
Absolument. Honnêtement, là, tu sais, c'est vraiment impressionnant comment l'effet du retour de la foule a changé la dynamique.
C'est vrai.
En termes d'expérience et malheureusement, ce qu'on a vu hier, Edmonton-Winnipeg, dans un match serré, digne des séries, là.
Oui.
Mais tu sais,
ça. Pas pareil, c'est pas
mais
pareil.
Non, ça lève pas du tout. Ben on n'a pas le même feeling qu'on doit rester émotivement engagé. Mais Caroline contre Nashville, Tampa, Floride, évidemment. Tu sais, honnêtement, il y a une ambiance qui te rappelle c'est quoi le sentiment de l'importance de l'enjeu. Bon, alors, on espère que quand on sera rendu au match 6 dans cette série ici qui nous concerne, on va commencer à sentir ça, Jérémy, même avec 2500 personnes.
Mais là, par contre, là, du côté de l'Ontario, je ne sais pas si tu as suivi ça un petit peu, là, mais on a confirmé qu'il n'y aurait pas de spectateurs à Toronto, à l'intérieur, pour les événements sportifs avant l'année prochaine. Là. Ça, c'est au mois d'août, au mieux, que ça va se mettre en branle. Donc, eux autres, là, ils ont beau se rendre en finale de la Coupe Stanley, les Maple Leafs, il n'y aura pas un show dans les astrales.
C'est effectivement ce qui symbolise les irrégularités entre une province puis une autre au Canada.
Oui.
En Ontario, c'était très bien au départ pour l'avoir vu. Mon garçon a vécu en Ontario toute l'année.
Mm-hmm.
Et puis pour une longue partie de l'année, c'était beaucoup plus libéral par rapport à ce qui était des mesures plus restrictives au Québec. Mais à la fin, eux ont déraillé leur train, littéralement, là, en février-mars. Et c'est hors de contrôle. Alors, ce qu'ils ont, c'est que ça va affecter la CFL. Parce que 3 des 9 équipes, Jérémy, sont en Ontario.
Exact.
Et ça va être difficile pour eux d'envisager un modèle de retour de partisans même au mois d'août. Tandis qu'à Montréal, en principe, match 6, on aurait 2500 personnes. Et qui sait qu'est-ce qui peut arriver pour les équipes de la Ligue canadienne de football dans l'Ouest canadien.
Oui.
Ça crée beaucoup de confusion et beaucoup de difficultés de planification pour la Ligue.
Puis tu sais, une bulle là, au football, c'est, en tout cas, ça peut pas marcher. Mais maintenant, revenons à nos moutons. Justement, tu parlais de l'Ontario, de Toronto et tout ça. Et tu voulais me parler d'un mouvement, d'une volonté chez les Maple Leafs de Toronto de vraiment ouvrir des postes à des gens de minorités visibles et tout ça. Pourquoi on fait ça et pourquoi le dire publiquement? Comment ça fonctionne?
Bon, alors, les Maple Leafs, Jérémy, peut-être dans ton temps, mais certainement tu devais être très jeune, mais à l'époque de Harold Ballard, comme propriétaire de l'équipe.
C'était extrêmement conservateur.
Et du Maple Leaf Gardens. Je suis allé au Maple Leaf Garden une fois dans ma vie et j'avais vraiment fait l'effort pour voir ces amphithéâtres originaux-là du début, y compris le Garden de Boston, tu sais. Alors, le Maple Leaf Garden, M. Ballard s'accrochait dans le coin de l'amphithéâtre avec un genre de trou dans un mur de briques et le propriétaire était là dans sa loge. Et les Maple Leafs étaient toujours perçus comme une équipe, une formation vraiment préhistorique. Et c'était correct, là, parce que c'était un peu la façon de faire à ce moment-là. Au fil des années, depuis que MLSE a pris le contrôle, Maple Leaf Sports Entertainment, des Leafs, des Raptors.
Oui.
Depuis le rajeunissement de l'effort causé un peu par les Raptors puis le basketball de l'NBA, les Maple Leafs, graduellement, sans avoir le succès sur la glace, parce que ça fait longtemps, depuis 1967, puis ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une série éliminatoire, mais ils demeurent une équipe qui est beaucoup plus... C'est une équipe beaucoup plus progressive.
Ouais.
Beaucoup plus avant-gardiste, beaucoup plus jeune et près de la réalité des besoins d'aujourd'hui. Bon, l'exemple de Hayley Wickenheiser, embauchée il y a quelques années comme directrice du développement des joueurs. Et là, elle vient d'avoir une promotion la semaine dernière, pendant que Daniel Goyette se joint à l'organisation directement de son emploi d'entraîneur-chef avec l'Université de Calgary et de ses racines québécoises et ses médailles d'or comme entraîneur adjoint et comme joueuse aux Jeux olympiques et les nombreux championnats du monde, Jérémy. Elle se joint comme directrice du développement et Wickenheiser, directrice senior. Deux femmes vont diriger le développement des jeunes prospects des Maple Leafs.
Mm-hmm.
Ça, c'est ce qu'on appelle avoir confiance. Les deux dames méritent. Elles ont accompli au fil des années tellement de choses dans le hockey. On n'a pas de raison de croire qu'elles vont pas faire un bon travail.
Oui.
Et pendant ce temps-là, cette semaine, les Leafs lancent un programme d'inclusion puis de diversité pour aider des jeunes de milieux minoritaires ou discriminés contre.
Mm-hmm.
noirs, américains, africains, d'autres origines, asiatiques, et ainsi de suite, qui cherchent à percer dans le marché de la business du sport. Alors, un poste côté management et un poste côté coaching, entraîneur. Mm-hmm, mm-hmm. Et ça, ce sont des postes. Un, payés. Deux, vraiment intégrés dans l'organisation, Jérémy, là, malgré zéro expérience. Ils vont choisir des candidats, candidates selon leur ambition, leurs compétences, bien sûr, leur capacité à s'adapter et leur présentation, bien sûr. Mais c'est quand même une job d'un an, un stage d'un an payé dans des conditions de la Ligue nationale avec une équipe meneuse. Bon, cette espèce de d'engagement vers la diversité puis l'inclusion, c'est ça que les équipes doivent faire aujourd'hui.
Ouais.
Bravo Maple Leafs et les autres devraient suivre. Parce que toutes les équipes ont une responsabilité dans leur communauté, dans leur province, puisqu'elles sont leaders. Elles génèrent énormément d'économies et d'argent et de profits, Jérémy. Elles ont une responsabilité de donner des occasions, des chances à des jeunes qui veulent percer, qui autrement devraient passer par une éternité, c'est le cas là, pour la majorité, pour atteindre une chance un jour. Mais là, ça va des portes qui vont ouvrir beaucoup plus vite.
C'est un domaine qui est extrêmement fermé. En tout cas, au Québec, là, je veux dire, oui, on va se le dire, puis moi, je vais parler peut-être des médias. Puis les médias font un excellent travail à Montréal. Mais par exemple, nommez-moi une personne issue de la communauté, d'une visibilité, minorité visible au Québec qui couvre le Canadien en français dans les médias traditionnels. Ça n'existe pas. Il y en a zéro.
Je vais juste te faire un bémol en quelques secondes. Là. À l'époque, dans les années 80, quand je suis allé faire ma maîtrise aux États-Unis à Penn State, Jérémy, en management du sport, là, c'est comme un MBA dans le sport. Il y avait 10 écoles qui avaient ce programme-là aux États-Unis. Mm-hmm. Aujourd'hui, en 2021, il y en a plus de 300 aux États-Unis qui ont un programme de ce niveau-là. Le monde entier, la jeunesse d'aujourd'hui, en Europe, en Asie, en Amérique, évidemment, trouve que c'est vraiment une entreprise, une industrie, une carrière passionnante que d'aller dans le sport.
C'est vrai.
Le sport.
C'est vrai.
La commandite, la vente, la business, la gestion, les médias. Mais c'est le sport.
Absolument.
C'est devenu une industrie qui attire le talent et la technologie et l'avancement de notre jeune génération.
Bon, parle-moi de ce que tu penses du nouveau format des séries de la NBA. En tout cas, je ne sais pas si on va le garder, mais avec ces genres de rondes, ce qu'on appelle les play-in, un peu comme on a fait dans la Ligue nationale l'année dernière pour inclure plus d'équipes dans les séries. On voit ça dans d'autres sports aussi. Est-ce que c'est un modèle qui te plaît?
Absolument. J'adore ce que je vois, même si t'as des gars comme LeBron James qui sont pleins un peu. Là, puis à la fin, Jérémy, le play-in, ça fait 10 équipes qui rentrent en série au lieu de 8. Donc, plus de connexion avec les partisans, plus d'espoir. On prolonge le suspense pour aller plus loin et l'équipe qui finit 10e peut accéder. C'est pas compliqué, c'est 7, 8, 9, 10. À la fin de la saison régulière, si tu es 7e à 10e, tu es forcé de jouer un match de plus. 7 contre 8, le gagnant obtient le 7e rang. Mm-hmm. Pas compliqué, c'est un match. Et le 7e rang, tu évites le premier de la division de la conférence en première ronde de série. Le perdant de 7 et 8 va affronter le gagnant de 9 et 10. Alors, 9 et 10, le gagnant continue, le perdant est éliminé, sa saison s'est terminée. Et là, il y a un match pour le 8e rang entre le perdant de 7-8 et le gagnant de 9-10.
Écoute,
hier, là, on a vu les Golden State Warriors qui ont terminé au 8e rang en saison, qui ont perdu le play-in contre les Lakers. Ils étaient forcés de jouer un match de plus contre le gagnant de Memphis contre les Spurs. Et hier soir, Memphis est allé à San Francisco renverser les Warriors et Steph Curry. Et Memphis se mérite le 8e rang et le privilège de jouer contre le Utah Jazz dès la première ronde de série. Honnêtement, Jérémy, ça fait parler encore la NBA pendant 4-5 jours de plus. Il y a du suspense. LeBron James était là-dedans, Steph Curry aussi. Il y a des joueurs vedettes. C'est merveilleux. Et à la fin, ça a pris 2 matchs.
Écoute, pendant que tu me parles, là, le match entre les Panthers et le Lightning vient de commencer, match numéro 4, et dans les premiers instants, c'est Jonathan Huberdeau et aussi Yannick Gourde, deux gars d'ici, qui en sont venus au coup. Là, donc, ça vient de commencer, et près du banc du Lightning, envoyer des coups à la marboulette, et puis en tout cas, ça vient de commencer, ça brasse déjà. Quelle série extraordinaire. Je veux que tu me parles un petit peu de la conclusion de cette saga du crew de Columbus qui a finalement décidé de revenir sur sa décision de changer de nom suite aux pressions effectuées par les partisans. Donc, ils ont décidé de revenir en arrière et de garder le nom du Crew. On s'en était parlé un peu la semaine dernière à l'émission. Quel genre de pression ça met maintenant sur l'organisation du CF Montréal? Et as-tu senti cette semaine que ça a relancé tout ce débat-là?
Ben moi, j'ai été particulièrement impressionné par ce qui s'est passé à Columbus. Dans le temps de le dire, dans une semaine, Jérémy, là, le groupe de propriétaires et le groupe de supporters qu'on appelle le Nordiki se sont mis ensemble, ils se sont rencontrés, ils se sont expliqués, ils ont pris la peine de s'asseoir ensemble pour, encore une fois, valoriser ce qui compte pour tout le monde là-dedans. Le raisonnement de la réflexion initiale du groupe de propriétaires de changer puis d'utiliser le terme Sporting Club, le Soccer Club, ouais. SC, ouais. Et pour arriver à éliminer The Crew, puis l'impression, puis le feeling, puis les sentiments enracinés des partisans qui supportent cette équipe-là, qui est championne de la MLS,
ouais.
De garder le mot Crew.
Ouais.
Et là, ensuite, ils ont sorti un communiqué conjoint pour expliquer ce qui s'était passé, c'est le 17 mai dernier. Jérémy, honnêtement, on peut pas mieux faire les choses que ça. Ça s'appelle être à l'écoute de tes partisans.
Ouais.
Ça s'appelle être sensible à ce qui résonne ou non dans ton marché.
Mm-hmm.
Ça s'appelle faire attention à ce qui va effectivement devoir être accepté. Et c'est même si ce sont les dirigeants du club qui doivent décider, c'est leur équipe.
Ouais.
Ils ont pris le temps d'aller se pencher et de démontrer comment l'équipe est importante pour leurs partisans, mais surtout comment leurs partisans sont importants pour eux.
Ouais.
Et ça, là, honnêtement, c'est une première, c'est le modèle à suivre dans le sport professionnel.
Ouais, chose qui n'a pas été faite ici du côté de Montréal. On verra s'il y aura une réaction, mais comme tu l'as mentionné la semaine dernière, là, on dirait que...
Ben, je pense que le temps a passé, puis ce bateau-là est parti, là. Mais il y a une chose qui est claire, Columbus vient de démontrer qu'on peut corriger notre erreur.
Absolument.
On peut corriger notre tir, Jérémy. Non, mais c'est merveilleux d'être juste être capable d'admettre ça dans le sport, avec les égos, puis avec la puissance, puis l'économie qui existe, puis des riches qui disent « Non, ça va être ça », puis on l'impose.
Mm-hmm.
Écoute, ils ont plié les genoux, puis ils ont réalisé que c'était peut-être la meilleure chose à faire, c'est de revenir avec ce qu'on
Absolument.
Avait. Bravo,
ben, écoute,
honnêtement.
Écoute, ça se peut aussi, Ray, qu'ils aient regardé ce qui s'est passé à Montréal et ils se sont dit « Nous, on veut pas s'embarquer là-dedans pour les 3, 4, 6 prochains mois
ça,
ou
ça
la
se peut,
prochaine
Jérémy,
année. »
Mais faut le faire pareil.
Exact. Exact.
Il faut quand même avoir le courage de tes convictions pour dire « Non, non, tu sais-tu quoi? On va plier parce qu'ils ont des bons points, on va être à l'écoute. »
Excellent. Ray, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup, bon week-end.
Salut Jérémy, toi aussi.
Au retour de ceci, on va regarder l'alignement partant du CF Montréal avec Vandril Lefebvre, à qui on aura la chance de parler deux fois aujourd'hui. Petite conversation après la pause pour mettre la table pour ce match et on va lui reparler à la mi-temps, donc vers la fin de l'émission pour savoir qu'est-ce qu'il a pensé des 45 premières minutes de jeu.